Chapitre 2. Arrivée. Ils arrivèrent à Fort-de-France le samedi 22 octobre, en début d'après-midi. À peine posèrent-ils le pied sur le sol de la Martinique qu'une chaleur lourde et moite tomba sur leurs épaules. Une ceinture de végétation luxuriante s'étendait au loin, à la périphérie de l'aéroport. Ils ouvrirent grand les yeux pendant l'heure de trajet dans un bel autobus climatisé qui les mena jusqu'au village de Sainte-Anne. Maud regardait les villages, les routes et les portions d'autoroute, les arbres et les fleurs, les crêtes couvertes de forêts denses et vertes. Des romans enregistrés étaient, pendant ce temps, murmurés à son oreille. Leurs deux chambres, crépies de blanc, étaient superbes, intimes, joliment décorées, hexagonales et bien évidemment climatisées. Située au deuxième étage d'une jolie tourelle massive, étincelante sous le soleil, elle donnait l'impression de loger dans un phare. La plage était toute proche, longue, douce, plantée de hauts cocotiers filiformes, penchés par le souffle des alizés et surmontée en leur sommet par un bouquet de feuillages. Le restaurant principal, abrité par un haut vent de bois, découvrait le somptueux paysage maritime et fonctionnait, selon le principe du libre service alimentaire, bien connu du Club Méditerranée. Le lieu était magnifique, idéal, chaud et sans contrainte. Les parents d'un côté, les jeunes de l'autre, déambulèrent jusqu'au dîner pour se repérer au sein de ce paradis riche d'une vaste piscine bleu azur, d'un impeccable tapis de pelouse immaculée et d'équipements sportifs dernier cri pour s'adonner aux joies de la planche à voile et du ski nautique. Ce dernier sport était, de notoriété familiale, relativement méprisé et définitivement snobé par Maud, qui préférait de beaucoup la pratique voilière à une quelconque motorisation maritime. Celle-ci voisinait de l'avis de Maud avec une certaine vulgarité. Ladite motorisation maritime s'épanouissait à coup sûr en une évidente facilité et ne présentait en conséquence, toujours selon Maud, pas le plus infime intérêt. Le ski nautique était cependant visiblement très apprécié en ce lieu, ainsi que l'attestait la conséquente file d'attente qui s'était allongée tout l'après-midi à l'extrémité du ponton où accostait le bateau. Cette affluence ne se démentit pas pendant toute la durée du séjour. Le bateau décrivait son éternelle boucle à quelques 500 mètres de la plage, mais aucun des valentes ne daigna profiter de cet incessant manège pour adultes. Les convictions maternelles en ce domaine tacite désormais, qui faisait depuis des temps immémoriaux partie de la culture familiale, ne furent évidemment pas étrangères à cette unanime indifférence. Maud s'intéressa tout spécialement au fonctionnement du club de plongée pour ses garçons, pour qu'ils s'occupent et qu'ils s'épanouissent. Accompagnée par Thibault, elle en étudia les conditions d'inscription et de paiement. Le club s'étendait sur plus d'un kilomètre, depuis leur chambre jusqu'au bateau des plongeurs, amarré près du deuxième restaurant de l'hôtel, qualifié de « typique », selon la terminologie en usage. Cet endroit, qui proposait un service individualisé à table, était censé présenter un savoureux choix de produits locaux. Thibaut et Maude avaient dû faire plusieurs allers-retours d'une extrémité à l'autre du club. Ils n'oublièrent pas de se rendre au bureau des excursions. Ils marchèrent longtemps, sous une chaleur et une lumière presque trop intenses, en raison du contraste avec le climat parisien qu'ils avaient abandonné quelques heures plus tôt. Maude avait ses écouteurs, est-il besoin de le préciser? Les deux groupes, des parents et des jeunes, se croisaient régulièrement. Ils se saluaient gentiment, leurs recherches respectives aboutirent au même résultat, ils comprirent le mode d'organisation de la plongée et des visites proposées à la découverte de l'île. Ils étaient dès lors fin prêts pour vraiment profiter de leurs vacances dès le lendemain. Ils se donnèrent rendez-vous sous la véranda du restaurant principal et ils dînèrent ensemble. L'événement mérite d'être souligné, puisque les Valente n'avaient pas l'habitude, au quotidien du moins, des repas familiaux. Maude servait les garçons dans leur chambre. L'expérience lui avait depuis bien longtemps montré que ni l'un ni l'autre ne faisaient à table d'efforts de conversation. L'un et l'autre s'échappaient aussi vite que possible. Maude n'y trouvait aucune satisfaction et elle s'était dès lors prononcée pour le système des boîtes, plus simple à son goût, qu'elle déposait devant leur ordinateur. Chapitre 3. Dépaysement. Le lendemain matin, Thibaut et Maude se gardèrent de réveiller les garçons qui n'auraient probablement pas vraiment apprécié. Les parents vaquèrent, comme à l'accoutumée pendant les vacances, à leurs propres occupations, dont le petit déjeuner constitua l'incontournable première étape. Thibaut en profita sans arrière-pensée. Son tempérament le porte à se nourrir avec enthousiasme et il ne s'en priva pas. Maude le vit ce matin-là, ainsi que tous ceux qui suivirent, se servir de belles assiettes d'œufs au bacon, de saucisses, de pain au chocolat, de brioches, de toast et autres entremets. La mer brillait par-delà la balustrade qui entourait le restaurant. Au loin, un nageur qui maintenait un rythme sûr et régulier multipliait les longueurs de crawl. Sur la plage, de nombreuses chaises longues attendaient le vacancier. Thibaut et Maude se trouvaient être, dès ce premier matin, quasiment à jour de leurs habituels sujets de conversation. Ils les avaient, avant leur départ, d'ores et déjà amplement développés. Il s'agissait de la situation de Luc, désormais petit ami attitré de la jeune Delphine, et de son futur emploi, inespéré ne serait-ce que quelques mois plus tôt, dans la mirifique entreprise L'Artigue Frères. Romain poursuivait le même parcours que l'année précédente. Il entamait sa deuxième année dans une école privée où il préparerait les dernières épreuves du diplôme de comptabilité-gestion, il obtiendrait ainsi une licence d'État. Le mari et la femme comptaient l'un sur l'autre pour passer le temps. Leur garçon n'interviendrait pas en ce domaine. Les nombreuses vacances passées en famille étaient depuis longtemps structurées en deux groupes distincts, celui des jeunes et celui des parents. Et Maude, fidèle à son rôle habituel, fut en ce premier matin force de proposition, car il ne s'agirait pas de l'oublier. Le cadre de vie peut se révéler tout à fait exceptionnel. Il peut s'épanouir sous les cieux d'une opulente île Caraïbe. Il peut découvrir le somptueux rocher du Diamant sur la ligne d'un superbe horizon maritime. Il peut offrir une magnifique vue sur de lointaines crêtes tapissées de forêts vertes et denses en surplomb d'une majestueuse plage de sable clair. Il n'en demeure pas moins que ce type d'environnement, aussi parfait soit-il, ne dispense pas de penser à son être au monde, à son être à deux, lorsque tel est le cas, que l'on se doit de travailler un minimum, de sculpter, pour y introduire des améliorations si elles s'avèrent nécessaires. L'on ne saurait être naïf. Maude proposa de marcher au bord de la mer et ils atteignirent la place centrale du village de Sainte-Anne. Maud y photographia l'église, bondée en raison de la célébration dominicale. Ils entamèrent ensuite un chemin de randonnée qui longeait la côte en direction du sud-ouest de l'île. Ils peinèrent. La chaleur était accablante. Ils revinrent et furent accueillis à leur retour par les garçons qui s'étaient étonnés de leur absence. « Mais où donc étiez-vous ? » leur demandèrent-ils tout à trac. Ils poursuivirent en constatant que c'était bientôt l'heure de manger. Ils conclurent, à la limite de la réprobation, qu'ils n'avaient même pas pris le petit déjeuner ensemble. Thibaut et Maud échangèrent un regard entendu. « Ils sont drôles, nos garçons, pensèrent-ils au même instant. Ils sont grands, c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour autant, ils ne nous quittent pas. » Les deux jeunes gens recherchèrent effectivement pendant le séjour la compagnie de leurs parents. Tel fut du moins le sentiment éprouvé par Thibaut et Maud. Les deux frères participèrent bien sûr de leur côté, sans leurs parents, à quelques magnifiques plongées, au nombre de trois précisément, dont l'une en plein cœur de la nuit. Tous deux nagèrent ensemble, des heures durant, avec leurs masques et leurs tubas à l'affût de superbes poissons tropicaux. Mais ils retrouvaient régulièrement les parents, ils ne manquèrent ni un déjeuner ni un dîner ensemble, ils eurent très vite leur table habituelle. Maud était critiquée, elle était à table avec eux, elle leur parlait, mais elle avait ses écouteurs dans les oreilles. « C'est impoli, » lui disait Luc, chaudement approuvé par Romain et Thibault. « Mais je n'écoute pas, » répondait Maud. Elle ôtait les appareils, puis les réajustait au creux de ses oreilles quelques minutes plus tard. Elle souriait, apparemment elle riait même lorsqu'elle répondait. « Mais non, bien sûr, je n'écoute pas. » Cependant, une ombre passait qui assombrissait son humeur. Il se liguait contre elle et elle se sentait triste, anormale et gênée tout à la fois. Thibaut et Maud avaient déjà remarqué lors de leurs dernières vacances, 2 mois plus tôt à Kerbihan, que le comportement de Luc avait changé. Il avait eu tendance, au début du séjour breton, à entraîner les parents dans le groupe qu'il formait avec son frère, alors que tous deux menaient jusqu'alors leur propre vie autonome au bord de la mer. Luc se montrait plus social depuis qu'il connaissait Delphine, ou plus adulte, commentait discrètement Maud lorsqu'elle était en tête-à-tête avec Thibaut. Il ne s'isolait plus autant dans son univers ludique et virtuel. Il sortait avec Delphine. Il était même celui au sein du groupe de leurs amis qui organisait les divertissements. Il invitait des étudiants, dont bien évidemment Delphine, à passer des week-ends de printemps à Champs-les-Vignes, dans la maison des grands-parents. Dûment pourvu d'une petite amie, il se tournait vers les autres, et également davantage vers ses parents pendant les vacances. Thibaut et Maud perçurent en Martinique cette même tendance chez leur fils. Ils se tenaient au courant des activités de ses parents, tous quatre se donnaient de fréquents rendez-vous, ils comptaient les uns avec les autres. Une autre raison était peut-être également à l'origine de cette proximité désirée par Luc. Étaient réunies en cet endroit les caractéristiques les plus typiques d'un lieu paradisiaque, la plage, les cocotiers, la chaleur des bains de mer, la liberté totale, l'exubérance et la beauté des paysages. Les composantes du luxe, du calme et de la volupté étaient toutes présentes. Le produit offert aux vacanciers en échange d'un tarif déterminé, était conçu pour approcher l'idéal de vacances parfaites. Il n'en était pas moins vrai que, des deux côtés, celui des jeunes, tout comme celui des parents, un certain dépaysement se faisait sentir. Les vacances familiales ronronnait d'ordinaire en fonction d'habitudes acquises, à Kerbihan l'été, à Chamonix l'hiver. Tel n'était pas le cas dans le cadre du club méditerranéen de Sainte-Anne, et la planète des jeunes se rapprochait spontanément de celle des adultes. Le régime minimum consistait à se retrouver à l'occasion des 2 repas quotidiens. Les jeunes avaient même reproché le premier matin à leurs parents de ne point savourer ensemble le petit déjeuner du matin. Ils allèrent les deux derniers jours jusqu'à partager sur la plage le même parasol. Les jeunes lisaient, Maud retravaillait ses textes. Ils firent ensemble une superbe excursion d'une journée avec 4x4, forêt vierge et douche sous une cascade naturelle. Ils aperçurent les flancs massifs de la Soufrière. Ils visitèrent une bananeraie, des champs de canne à sucre, une distillerie et une maison coloniale. La famille déjeuna ce jour-là en dehors du club, dans le restaurant prévu par les organisateurs de l'excursion. Ils discutèrent avec un couple richissime. L'homme, âgé, avait fait fortune. Son épouse, plus jeune que lui, était psychologue. Maud avait longuement écouté M. J, qu'elle avait, par-devers elle, surnommé « Monsieur le requin des affaires ». Un homme prolixe, ouvert, positif, énergique et apparemment optimiste, mais qui, elle n'en doutait pas, devait se montrer dans sa pratique professionnelle sans état d'âme ni compassion. Charmant, entreprenant, disert, jovial et visiblement plein d'entre-gens, il fit mine de s'intéresser à l'écriture de Maud. Lui-même voulait écrire un livre. Il souhaitait plus précisément trouver une plume qui se chargerait de la besogne. Son intention était de dévoiler au plus grand nombre ses principes fondamentaux de vie qui lui avaient permis d'accéder à la véritable et inaltérable grande fortune. Il prendrait connaissance des livres de Maud et peut-être envisagerait-il tous deux un projet commun. Romain avait tendu l'oreille. « Tu vois, maman, lui avait-il dit plus tard, tu ne peux pas t'en empêcher. Quand tu parles de tes livres, tu dis qu'ils sont autobiographiques. Il était mécontent. Il n'apprécie pas que sa mère raconte leur vie, la sienne en particulier, à quiconque fait mine de s'y intéresser. Souffrance, résonance et réminiscence. Maud se souvenait. Elle avait 17 ans. Sa sœur aînée découvrait son journal intime. Elle le lisait et déclenchait les foudres familiales. Maud s'était réfugiée dans le cagibi, sous les poutres du grenier, dans le noir, accroupie, recroquevillée, honteuse, elle était méchante et stupide. Thérèse avait hurlé, leur mère avait hurlé avec elle. Maud avait écrit une demi-ligne au milieu de dizaines de pages, dans un cahier qui n'était pas destiné à être lu. Ma sœur est bête. Elle était excusable. Elle avait 17 ans. Elle partageait sa chambre avec Thérèse, qui s'était attribué le mauvais rôle de la sœur aînée, autoritaire. Éteins la lumière. Et pourquoi lis-tu? À cette heure-là, tu dois dormir. Maud était lue pour la première fois. Elle recevait de plein fouet condamnation, opprobre, malédiction et mésestime de soi. 40 ans plus tard, son écriture gêne son fils. Elle le gêne ou bien le fait souffrir. Les deux notions sont proches. Une subtile douleur aiguë la traverse. Fera-t-elle toujours du mal avec son écriture? Devra-t-elle toujours se cacher? Plaisantons un peu. Essayons du moins. Si demain Maud écrivait des best-sellers, pourquoi ne ferait-elle pas comme Elena Ferrante? Elle se dissimulerait, ni son nom, ni son visage, ni rien de sa personne ne filtrerait. Chapitre 4. Silence. Maud a apprécié ce séjour en Martinique. Elle l'avait organisé afin que ses garçons sortent de leur chambre, qu'ils manifestent un minimum de courtoisie et de souplesse en société, afin qu'ils se montrent un peu moins taciturnes et sauvages. Elle avait momentanément éloigné les ours de leur tanière. Son objectif se trouva être pleinement atteint. Luc et Romain déjeunèrent et dînèrent avec eux. Ils participèrent même le jour de l'excursion à une expérience quasiment mondaine à table avec leurs parents et monsieur le requin des affaires. Ils furent, pendant le séjour, ouvert et sociable, le verbe circulait, de même que les sourires et les regards. Maud était satisfaite. Elle passa par ailleurs l'essentiel de son temps avec Thibault. Elle agit en ce domaine comme elle en avait l'habitude. Il n'aurait su être question pour elle de se laisser porter passivement par le soleil, la lumière, la chaleur, la plage et les cocotiers. Elle se sentait au fond singulièrement proche de la vie de M. Chabrol, qui s'était un jour, lors d'une interview, amusé à critiquer les riches hommes d'affaires, intelligents, futés, vifs et habiles dans leur activité professionnelle, mais qui devenaient de véritables flaques d'eau lorsqu'ils partaient en vacances, leur seul désir étant alors de dorer leur derrière sur des plages tropicales. Maud l'avait trouvé aussi drôle que perspicace. Elle n'avait aucune intention de laisser la plus petite chance à l'ennui ou à la morosité de s'immiscer le moins du monde entre eux. Personne ne les prendrait en charge pour vivre leur vie à leur place. Ils entreprirent une deuxième balade jusqu'au village de Sainte-Anne, mais ils comprirent cette fois-ci que la chaleur était vraiment par trop intense pour marcher sous le soleil. Exit donc leur activité principale, la marche, lorsqu'ils étaient jusqu'alors en vacances. Ils firent deux excursions, dont l'une avec les garçons. Ils jouèrent aux échecs, ils nagèrent. Ils bronzèrent sur la plage tout en demeurant prudence oblige à l'ombre des parasols. Maud retravaillait ses textes, car lire sur une longue durée avait fini par lui sembler par trop passif. Se plonger dans l'univers d'un auteur était certes passionnant, mais elle eut également envie, pendant ses longues heures d'immobilité, de s'atteler à sa propre vision du monde qu'elle tentait de transmettre en modelant ses phrases et ses paragraphes. Elle se réjouit car elle réussit sur la plage, face à la splendeur des vaguelettes étincelantes et au bateau de ski nautique qui enchaînait ses éternels allers-retours, a puisé en elle la concentration nécessaire pour poursuivre sa broderie, sa sculpture ou encore son bricolage, selon la métaphore retenue. Le mari et la femme furent donc ensemble du matin jusqu'au soir, ce dont ils n'étaient pas coutumiers à Paris, sans pour autant disposer de leur rituel parfaitement rodé dans leur kerbillan et chamonix habituels. Le séjour fut harmonieux. Maud imprimait le mouvement aux différentes étapes de la journée. Thibault parlait peu. Son épouse n'avait d'ailleurs pas escompté le contraire. Elle s'efforça de nourrir entre eux ne serait-ce qu'un mince flux de paroles. Elle ne disposait cependant pas d'une imagination hors du commun. Et les divers commentaires sur la structure, l'évolution, voire les changements d'ordre familial n'avaient pas lieu d'être. En cette période de pause, hors du quotidien et par voie de conséquence, dépourvue de toute inquiétude ou incertitude liée en règle générale aux études des garçons. Les paroles entre eux devenaient plus rares. Maud le percevait ainsi. Thibault connaissait sa femme. Il sentait sa gêne latente. Tous deux avaient conscience du relatif mutisme qui les environnait et qu'ils se gardaient bien d'évoquer. Ils se montrèrent dès lors d'autant plus prévenants et gentils l'un avec l'autre. Ils se souriaient. À table, Thibault se régalait. Il profitait sans réserve de l'offre du restaurant. Le buffet, varié, présentait chaque jour des plats différents qui ne manquaient pas de goûter. Et la formule du « vin à volonté » n'était pas pour lui déplaire. Il mangeait, il buvait, il souriait à Maud et il était heureux dans la mesure où l'on peut se risquer à utiliser cet immense qualificatif de la proximité de ces garçons. Maud adorait les apéritifs et autres cocktails. Elle était abonnée au Martini Rouge qui fut, au fil de la semaine, détrôné au profit du célèbre et savoureux Pina Colada. Thibault et Maud vivaient un grand plaisir quand approchait l'heure de l'apéritif en fin de matinée et d'après-midi. Thibault était investi de la mission d'aller quérir les boissons. Il s'éloignait de la plage, où chacun d'eux occupait une confortable chaise longue. Il se dirigeait vers le bar et revenait, chargé des précieux verres que tous deux dégustaient, qu'ils sirotaient plus précisément, ainsi que l'exprimait Maud. Maud appréciait aussi une chanteuse, une artiste professionnelle rémunérée par le club qui entonnait aux alentours de 18h ses mélodies sur une petite scène près du bar afin de distraire les fortunés du monde qui goûtaient leur apéritif du soir. Maud regardait, elle écoutait et elle avait l'impression que les vacanciers alentours, bavards, mondains, extravertis, démonstratifs, ne lui accordaient qu'une infime, parfois même aucune attention. Si certains venaient ici, disait Luc à ses parents, ce serait la débandade. Ils baffreraient, ils boiraient jusqu'à plus soif, ça ne durerait pas longtemps, le système s'effondrerait. Il pensait à Arthur, l'un de ses amis, et à José également. Tous deux avaient fréquenté, dans le passé, le lycée autogéré de Paris, un établissement accueillant les jeunes en échec scolaire. Ils en étaient sortis après avoir échoué au baccalauréat. Depuis, ils passaient le temps sans travailler ni étudier. « J'imagine Arthur, » précisait-il encore. « Je l'imagine complètement ébahi, avec le bar, les buffets et tous ces alcools à profusion. Ce serait une vraie gabegie, j'en suis sûre. » « Les gens sont riches, » ajoutait-il. « Des bourgeois, pas sympathiques, je trouve. » Et murés en eux-mêmes, ils ne disent même pas bonjour quand on les salue. Thibault et Maud leur opposaient leur désaccord. Ils trouvaient au contraire les familles en ce lieu très proches de la leur. Ils se sentaient à l'aise comme eux. Ils leur ressemblaient. Chapitre 5. Regard. Maud a passé des heures sur la plage qu'elle aurait pu de temps à autre trouver assez longue, mais elle réussit par chance à garder ses neurones actifs. La chaleur tropicale censée, comme chacun sait, privilégier la somnolence, ne l'affecta pas outre mesure. Elle ouvrait son ordinateur, elle travaillait au peaufinage de ses textes et ne risqua en aucun cas de devenir l'une de ces vacancières stigmatisées par Monsieur Chabrol susnommé, ne sachant que bronzer au soleil tout en neutralisant leur réserve de matière grise. Elle s'occupait ainsi par un paisible après-midi de cette semaine ensoleillée à son habituelle activité studieuse. En position semi-allongée, sur sa chaise longue, son fidèle ordinateur posé sur ses genoux, elle n'oubliait pas de lever régulièrement les yeux de son écran et de savourer la beauté du ciel traversé par de rares nuages couleur ivoire. De joyeux géos proposaient des tranches de mangue et d'ananas aux estivants abrités par des parasols harmonieusement plantés sur la plage ainsi que sur la vaste pelouse voisine. À quelques mètres du rivage, une séance de gymnastique tonique avec musique et tapis de sol allait bientôt commencer. Maud, qui préférait son confort tout à la fois contemplatif et laborieux, déclina courtoisement la courte invitation de la dynamique coach animatrice. Des flaques d'eau miroitaient au milieu de la pelouse aussi soignée qu'un green de golf. Les cocotiers filiformes balançaient leurs hautes palmes au gré du vent. Maud aspirait l'air doux et odorant. Elle apercevait la silhouette massive du rocher du diamant qui se détachait sur l'horizon éclatant de soleil. Des bateaux gagnaient le mouillage de Port-Marin, au-delà du promontoire qui fermait l'extrémité nord-est de la plage. Maud regardait autour d'elle, singulièrement fière de profiter du cadre, somptueux s'il en fut, tout en poursuivant son travail d'artisanat. Thibault avait apporté de Paris un volumineux essai écrit par un polémiste politique et engagé. Sa lecture le passionnait, le moment touchait presque à l'absolue perfection. Maud pianotait sur son clavier lorsqu'un homme mince, d'environ 40 ans, vêtu d'un pantalon et d'une chemise de coton blanc et souple, bronzé, aux cheveux longs, rassemblé en une queue de cheval et arborant un large sourire, s'arrêta devant elle. Il ne travaillait pas pour le club, mais proposait des services de massage à sa lisière immédiate. Maud comprit, à l'écoute de son discours, qu'elle représentait pour lui la Parisienne, typique, tendue et débordée, ployant sous les responsabilités, incapable de céder ses activités, quel que soit l'environnement du moment, aussi paradisiaque fut-il. Mais dites-moi, êtes-vous donc consciente de l'endroit où vous vous trouvez ? Avaient été les premières paroles de cet homme, philosophe, psychologue, détendu, équilibré, et qui cherchait à gagner sa vie. Son discours était parfaitement rodé. Il expliquait comment le contact de ses mains sur le corps permettait aux personnes submergées par d'intenses préoccupations de retrouver la sérénité, l'harmonie et le sens de l'existence. Maud écoutait. Disposait-elle d'un autre choix? Elle approuvait, elle souriait, relativement piégée par cet homme volubile et qui la dominait de toute sa taille. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. L'on pouvait difficilement se fourvoyer davantage en la considérant comme une superwoman dotée de hautes responsabilités au sein d'un éminent groupe international, alors qu'elle était dépourvue de soucis matériels et mise à part quelques obligations domestiques, totalement libre de son temps. L'homme lui servait des évidences éminemment estimables, mais qu'elle connaissait déjà. Sans activité professionnelle, justement, elle avait eu tout le loisir de réfléchir à ces questions. Lui arrivait-il d'oublier son être intérieur? Certes non. Elle ne s'en éloignait pas, elle y pensait en réalité à tout moment. Elle ne parvenait cependant pas à l'interrompre, et elle le laissa déployer son talent, qu'elle trouvait au demeurant assez impressionnant. Elle se sentait toutefois un peu gênée et un peu triste pour lui, car le pauvre homme gaspillait avec elle en pure perte son temps ainsi que ses efforts. Maud avait régulièrement observé sur la plage une famille qui s'installait chaque jour non loin de leur chaise longue. Le père avait la cinquantaine. Son ventre était rebondi, sa femme de taille moyenne, jolie, brune, au visage doux et rond, semblait à l'écoute, bienveillante, sincère, généreuse, transparente, comme si son regard, son sourire, ses gestes et ses paroles avaient pour but d'exprimer ses pensées et états d'âme le plus directement possible. Leur fille devait avoir 18 ans. Maud l'observait. Elle la regardait passer de longs moments, debout, dans l'eau, avec des fiches qu'elle répétait et récitait patiemment. Maud imagina qu'elle commençait, tout juste après avoir obtenu son baccalauréat en juin dernier, une école de théâtre. Sans doute préparait-elle ses prochains cours, avec des scènes et des répliques à retenir. Sa mère, qui avait environ 40 ans, passait du temps avec sa propre mère, qui complétait le groupe familial. Elle lui souriait, elle l'aidait, elle veillait à son confort lorsqu'elle s'asseyait sur sa chaise longue. Maud est émue lorsque des générations différentes parviennent à vivre ensemble. Tout le monde parlait dans cette famille, surtout Madame la quadragénaire, qui était au centre et qui adorait visiblement sa fille. Elle se baignait ensemble pendant des heures, elle nageait, avait des gestes tendres, elle parlait sans cesse. Surveillée de loin par monsieur le père, attentif, prévenant et doux avec sa femme, avec sa fille, tout autant qu'avec sa belle-mère. Rencontre-t-on souvent de telles familles ?